Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur 48FM, aujourd'hui une émission spéciale Choc des générations. On va parler musique, festival, sport, histoire et bien plus encore, et voir un peu comment ces thèmes ont pu évoluer ces dernières années. Le van des générations, c'est tout de suite. Pour m'accompagner, je suis en bonne compagnie. Élise, So, Laurence, Tanguy ainsi que Amel sont vos chroniqueurs d'aujourd'hui.
Bonjour.
Nous avons également la chance de recevoir deux invités, Bérénice Gillot, productrice et animatrice de L'Art de Dire sur Radio Prima, ainsi que Bastien Baumans, président de la Maison Arc-en-Ciel et chercheur sur les représentations cuir au sein de l'Université de Liège. Merci à vous d'être avec nous. Merci d'être en direct avec nous et commençons sans attendre cette émission. Pour démarrer sur un sujet très actuel, parlons un peu de sport. Pour cela, notre douce Élise s'est intéressée à l'essor du sport féminin. Élise, à toi la parole.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui mérite toute notre attention. L'évolution du sport féminin. Vous connaissez certainement des icônes du sport telles que Serena Williams, Ada Hegerberg ou encore Naomi Osaka. Mais le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Faisons un petit retour dans le temps. Au début du sport moderne, les femmes étaient presque totalement absentes. En 1896, lors des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, aucune femme n'a participé. Les Jeux étaient considérés comme un hymne à la virilité, une alliance de muscles et de cerveau dont on pensait que les femmes étaient incapables. Aucune règle écrite, n'interdisait leur participation, mais c'était une évidence pour tous. Les hommes concouraient, les femmes restaient spectatrices. En 1900, les choses commencent lentement à changer. 22 femmes participent aux Jeux Olympiques sur un total de 997 concurrents. Leur participation se limite à des sports dits féminins, comme le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le patinage artistique, considérés comme protégeant la féminité et la fécondité. C'est dans ce contexte-là que Charlotte Cooper devient la première médaillée d'or en tennis.
Et puis il y a eu des pas de géant vers l'égalité, je suppose.
Et oui, Jade, en 1921, un groupe de sportives fonde la Fédération Sportive Féminine Internationale. Au fil des années, le nombre de femmes aux Jeux Olympiques augmente malgré les réticences. Depuis 2007, la charte olympique stipule que le rôle du CIO est d'encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans toutes les structures, pour mettre en œuvre le principe d'égalité entre hommes et femmes. En 1967, Catherine Switzer devient la première femme à courir officiellement le marathon de Boston, malgré les tentatives des officiels d'en empêcher. Cet acte audacieux a ouvert la voie à une participation féminine accrue dans les marathons du monde entier. En 1972, le titre 9 de l'amendement à l'éducation aux États-Unis interdit la discrimination sexuelle dans les programmes et les activités éducatives financées par des fonds fédéraux. Cette législation a un impact énorme sur le sport féminin dans les écoles et les universités américaines, augmentant considérablement la participation des filles et des femmes. Cependant, malgré ces avancées, le sport féminin doit encore lutter contre de nombreux préjugés. Le football féminin n'en a aucun intérêt, le sport c'est pour l'affaire Pormance, disent certains. Pour comprendre ces opinions, je suis dans les rues de Liège avec un micro à la main. Bien que les sports soient désormais plus ouverts aux filles, certains restent catégorisés comme sport de garçons et vice-versa. Que pensez-vous du sport féminin ?
Que du bien, c'est très bien. Il en faut plus. Plus de femmes dans le sport. Voilà.
J'adore également.
Et donc vous avez quel âge ?
J'ai 17 ans.
Et moi je dois vraiment le dire ? Ok, 58.
Je vois pas le problème avec le sport féminin, c'est bien. Moi je trouve que ça devrait avoir plus d'importance comme le sport masculin par exemple. C'est vrai qu'on a, quand il y a les mondiales de foot, enfin, même les euros, on voit beaucoup plus les hommes que les femmes, pareil pour le cyclisme. Donc je trouve que c'est dommage que ça a moins d'importance que celui des hommes par exemple.
Vous avez quel âge ?
22 ans.
Je pense pareil, vraiment en plus je pense pareil, mais je savais pas comment le formuler et elle l'a bien formulé et j'ai 23 ans.
Comme les sports masculins, hein, vous avez le choix, c'est votre devoir de faire avec, pour montrer votre féminité.
Et moi j'aime en ce moment le foot féminin. Pourquoi ? Parce qu'ils sont champions.
Je trouve ça intéressant, en tant que femme, forcément, je trouve ça intéressant que ça soit mis en avant. Maintenant, je sais que ça peut mettre beaucoup de débats et qu'il y a beaucoup de... Ça peut diviser aussi beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de moqueries et des choses comme ça.
Moi, je suis pas fan de sport, que ce soit, enfin, de sport, que ce soit masculin ou féminin, donc j'ai pas spécialement d'avis là-dessus.
Ok, ça va. Et vous avez quel âge?
19 ans.
Bah, 19 ans aussi, bientôt 20.
Merci beaucoup, bonne journée. Merci. En termes d'évolution du sport féminin, les États-Unis sont en tête. Le football féminin y est roi, avec 3 titres de championne du monde, 7 podiums et 26,7 millions de téléspectateurs. Le Canada et la Suède suivent en nombre total de joueuses. Le succès des athlètes féminines américaines comme les gymnastes Simone Biles et les nageuses Kathy Ledecky a également contribué à changer les perceptions et inspirer de jeunes filles partout dans le monde.
Et en Belgique, ça donne quoi ?
En Belgique, l'athlète Nafissa Toutiam s'est qualifiée pour les JO avec 21 autres Belges. En badminton, Liane Tan représentera le pays, tandis que Gabriela Willems concourra en judo de la catégorie des moins de 70 kg. En football, les Red Flames sont actuellement en 3e position de leur groupe en Ligue A. Ils joueront donc les barrages en octobre pour l'Euro 2025. Les Belgian Cats, en division A de basket, affrontent la République tchèque en quart de finale de la Coupe d'Europe. Mais malheureusement, notre équipe de hockey n'est pas qualifiée pour les demi-finales, ayant été battue par l'Espagne. Le sport féminin a fait d'énormes progrès par rapport aux décennies passées. Les femmes sont désormais beaucoup plus représentées et ont plus de droits. Mais il reste encore beaucoup à faire. Donc continuons à soutenir et à promouvoir le sport féminin pour que l'égalité devienne réalité dans tous les domaines sportifs.
Merci Élise pour cette vision passionnante du sport féminin. Pour continuer ce sujet très actuel, Jade nous a préparé une chronique dédiée à la représentation de nos amis LGBT sur nos écrans.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, la représentation des personnes LGBT dans les médias et la manière dont elle évolue. Vous avez sûrement entendu des opinions diverses, allant de « on en voit trop » à « on ne les voit pas assez ». Récemment, deux termes ont particulièrement attiré mon attention et je tenais à les partager avec vous. Le wokisme et le queerbaiting.
Alors, c'est quoi le wokisme exactement, Jade ?
Le wokisme, un terme devenu omniprésent maintenant, suscite souvent la controverse. Initialement, il était utilisé pour sensibiliser aux injustices subies par la communauté noire américaine. À présent, il est souvent utilisé pour critiquer les idées progressistes. Certains disent que le wokisme est partout, pointe du doigt la surreprésentation des personnages gays dans nos séries, comme dans la saison 4 de Sex Education. On voit aussi des figures comme Harry Styles en jupe sur des couvertures de magazines, ce qui peut donner l'impression qu'être gay, c'est devenu à la mode. D'un autre côté, le queerbaiting est un concept tout aussi intriguant. C'est une stratégie utilisée par certains créateurs pour attirer le public LGBT sans réellement s'engager à montrer des relations queer. On le retrouve dans de nombreux médias où la sexualité est suggérée mais jamais pleinement montrée, comme dans La Légende de Korra par exemple. Parfois, l'orientation sexuelle des personnages n'est révélée qu'à la fin d'une série ou d'un film, frustrant ainsi les fans qui sont en quête de représentation authentique. Mais alors, comment peut-on être surreprésenté pour certains et manquer cruellement de représentation pour d'autres ? Pour comprendre ce paradoxe, nous sommes allés dans les rues de Liège pour recueillir l'avis des passants. Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
25 ans.
25 ans. Alors, j'ai 65 ans, je viens d'avoir la pension maintenant.
J'ai 32 ans.
J'ai 40 ans.
J'ai 30 ans.
Et alors ma question c'est, que pensez-vous de la représentation de la communauté LGBT dans les médias actuellement ?
Je trouve qu'elle est de plus en plus représentée. Enfin moi je trouve, enfin, je vois de plus en plus de publications sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus aussi à la télévision.
Dans notre société, oui, il y a encore des changements à faire parce qu'il y a encore certains avis et certaines personnes qui ont une éducation différente donc qui n'acceptent toujours pas. Mais en tout cas, nous ici en Europe, on est quand même bien, ouais.
La communauté LGBT, apparemment, serait bien vue et bien représentée. Néanmoins, le quidam, chacun que l'on rencontre dans nos milieux différents de vie, a son idée à lui. Et c'est très très difficile de convaincre certains, d'autant plus que parfois ils ont été influencés par ce qu'ils ont entendu dans leur cercle religieux, comme par exemple au niveau des évangélistes, ils sont très contre, au niveau des anglicans, ils sont très contre. Donc voilà, je leur souhaite bon courage en tout cas.
C'est quoi la communauté LGBT ? En vérité, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais personnellement, pour mes propres enfants, j'aimerais bien qu'ils soient... hétéro en fait, ça c'est un peu ce que j'espère pour eux, mais tout le monde est libre de ses choix en tout cas. Et c'est pas nécessairement dans le bon sens personnellement ce que je pense en fait. Donc c'est un peu ça, ouais.
Non, mais j'ai aucune mauvaise réponse. Je pense qu'elle est normale comme tous les pays européens.
Dans les médias classiques comme télé, je dirais qu'il n'y a pas assez de représentation. Et sur Internet, bah, c'est un peu en fonction de ce qu'on suit, donc c'est différent. Mais dans les médias classiques, c'est sous-représenté, je pense.
Alors, qu'en est-il de la représentation de nos amis LGBT ?
Pour mieux comprendre, revenons rapidement sur l'histoire de cette représentation. Les premiers personnages de fiction gay ne datent pas d'hier. Le tout premier baiser gay du cinéma remonte à 1916 dans le film Intolérance. En 1927, le film Wings présente également un baiser entre deux hommes, bien qu'ils se disent très bons amis. Ce film a même remporté l'Oscar du meilleur film. Cependant, en 1933, l'époque de la censure commence en Europe et aux USA avec le code ACE, code qui imposait des restrictions rigides sur l'homosexualité au cinéma. Durant des décennies, les représentations sont restées en demi-teinte, suggérant plutôt que montrant. Il faudra attendre les années 60 pour que le code ACE s'assouplisse, permettant des représentations plus directes mais souvent liées à la souffrance et à la marginalisation. Dans les années 80, en revanche, des films mettent en scène des superstars comme Al Pacino. Pourtant, les associations LGBT s'offusquent du traitement de leur communauté, qui sont toujours dépeintes dans des contextes d'insécurité et de violence. Ce n'est qu'au début des années 2000, avec des films comme Le secret de Brokeback Mountain, que les histoires d'amour queer commencent à être racontées de manière plus centrale et positive. Aujourd'hui, les représentations LGBT sont nombreuses et diversifiées. Des séries comme Glee et Sex Education proposent un large panel d'orientations sexuelles et d'identités de genre. Même des médias moins progressistes, comme BoJack Horseman par exemple, incluent des personnages asexuels. Malgré ces progrès, des plaintes persistent. Certains trouvent que ces personnages sont trop nombreux et prennent le pas sur la qualité des œuvres. Pourtant, selon les statistiques, environ 10% des personnages dans les séries et films américains appartiennent à la communauté LGBT, un chiffre qui correspond à peu près à la proportion de personnes LGBT dans la population générale. Alors pourquoi un tel tollé ? La quantité n'est peut-être pas le vrai problème, mais plutôt la qualité de ces représentations. Beaucoup de jeunes se plaignent que les personnes LGBT sont souvent réduites à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre, sans complexité ni profondeur. Pour conclure cette chronique, il est clair que le chemin parcouru n'a pas encore mené la communauté LGBT là où elle souhaite aller. Malgré une augmentation des représentations, la satisfaction n'est pas toujours au rendez-vous. Les minorités ne veulent ni traitement de faveur, ni discrimination positive, mais souhaitent être traitées comme des êtres humains complexes et intéressants, au-delà des stéréotypes et des quotas. Alors, pour parler un peu plus longuement de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Bastien Baumans. Bonjour Monsieur Baumans.
Bonjour, bonjour.
Alors, je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes donc le président de la Fondation Arc-en-Ciel et vous êtes également chercheur. Vous écrivez une thèse sur les représentations LGBT dans la littérature.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, Monsieur Baumans, nous avons surtout parlé cinéma et homosexualité masculine. Pouvez-vous nous en apprendre plus sur la représentation LGBT dans un autre média, comme la littérature par exemple ?
Oui, on peut parler de littérature, on peut parler de séries, de films. Là, quand on touche à ces médias-là, en fait, on touche aux enjeux de visibilité et de représentation. Si aujourd'hui, on a toutes ces nouvelles figures qui apparaissent dans les médias, c'est justement parce qu'avant, elles n'y étaient pas. Pourquoi elles n'y étaient pas ? Vous en avez un petit peu parlé juste avant. Il y avait un tabou autour des questions LGBTQIA+. Aujourd'hui, on voit qu'on traite de ces questions de manière beaucoup plus explicite. Ça ne veut pas dire qu'avant, elles n'existaient pas, mais elles étaient traitées d'une autre manière. Alors, on a parlé aussi de queerbaiting, et je trouvais ça très, très intéressant, parce qu'il y a un test, en fait, qui est inspiré du test de Bechdel, qui est un test féministe qui s'intéresse aux questions des représentations des femmes dans le cinéma. Et le test qui, ici, concerne les LGBTQIA+, eh bien, c'est le test de Vito Russo, où on voit que dans tout film, on peut voir qu'il y a des questions. On pose, est-ce qu'il y a un personnage LGBTQIA+, est-ce que ce personnage a une histoire à il ou elle-même, ou est-ce que c'est un personnage qui est juste là parce que c'est LGBTQIA+. Donc il y a ce test-là, je vous invite vraiment à aller le voir. Mais il y a une évolution, évidemment, sur les questions LGBTQIA+, mais c'est plus dans la continuité des représentations, voilà, qu'on voit le développement.
Ok, bah écoutez, c'est super, je ne connaissais pas ce test, mais je me renseignerai vraiment avec plaisir. Et que pensez-vous du débat actuel que j'ai évoqué qui concerne cet aspect quantité versus qualité ?
Oui, bah ça rejoint un petit peu ce qui est dit. Aujourd'hui, on parle de quantité. Alors la quantité, On a l'impression que parce qu'il y a une augmentation de la visibilité des personnages LGBTQIA+ aujourd'hui, ces personnages seraient partout. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand ils ne sont pas là, on ne pose pas la question de... on ne les voit pas, donc on ne questionne pas cette norme. La norme elle-même, c'est l'hétérosexualité, c'est le fait d'être cisgenre, donc non transgenre. C'est quand une norme est là, elle est invisible d'une certaine manière. C'est seulement quand on apporte des choses qui sont dites hors normes qu'on se rend compte que d'autres choses existent. Et donc quand on avance cette nouvelle nouvelles formes de représentations de genre et de sexualité, eh bien, soit on est sensibilisé, on s'intéresse à ce qu'on ne connaît pas ou justement à ce qu'on est. C'est tous les enjeux finalement de représentation et de sensibilisation, c'est normaliser une diversité de genre et de sexualité. Et il y a d'un côté des personnes qui sont sensibilisées et d'autres qui voient ça comme étant quelque chose qui va remplacer la norme, qui va remplacer les hétérosexuels et les cisgenres, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et comme vous l'avez dit tantôt, quand on fait le rapport avec le pourcentage de personnes dans la société LGBTQIA+, bah, on est plus ou moins aujourd'hui dans un même ratio.
Oui, c'est ça. On se rapproche très fort du ratio de la réalité au final, comme on a pu le voir. Et alors, pour terminer, j'aurais voulu vous demander, vous poser une question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que vous vous sentez bien représenté par les représentations que vous pouvez voir dans les médias actuellement ?
Oui. Alors moi, j'ai 29 ans, donc je suis ni jeune ni vieux. Mais je dirais que, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait mon coming out à mes 16 ans. Je me souviens dans les années 2000, je cherchais vraiment des représentations, parce que ces représentations-là, elles n'étaient pas là. Et donc, je me suis mis à voir des films suédois, d'un peu partout, pour vraiment chercher ces représentations-là, parce que j'avais besoin de représentations, de connaître des histoires qui faisaient écho à ma propre histoire. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, quand on voit la multiplication de séries, on a parlé de Glee, il y a Heartstopper aussi sur Netflix. Je veux dire, c'est important pour contrer encore l'homophobie et la transphobie, de montrer ces représentations-là et qu'ils soient à la fois authentiques par rapport à ce que c'est que d'être LGBTQIA+, mais aussi qu'ils ne se focalisent pas seulement sur ces identités ou ces pratiques-là, mais qu'ils démontrent aussi toute l'humanité qu'il y a derrière ces personnes. Et c'est un enjeu de rencontre avec l'autre. Quand l'homophobie et la transphobie, ce sont des choses qui existent parce qu'on ne connaît pas. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et donc c'est aussi au travers des médias qu'on peut apprendre sur ces questions-là et évoluer et progresser.
Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Je vous remercie pour ces précieuses informations, Monsieur Baumans.
Jade, excusez-moi de vous interrompre. Je pourrais rajouter un petit quelque chose, si ça vous dérange pas. Voilà, en fait, je m'appelle Bérénice. On l'a dit tout à l'heure, je fais partie de la commission Hommes-Femmes Égalité. Je crois qu'il y a toujours eu de l'homosexualité depuis que l'homme existe ou que la femme existe, hein, de toute façon. Mais je crois aussi que ça passe par la politique. Et en Belgique, je trouve que là, toutes les communautés LGBTQIA+ sont bien défendues grâce aussi à Sarah Schlitz, chez Ecolo, qui est une députée qui a beaucoup soutenu donc, toutes ces communautés. Mais alors moi, je voudrais aussi dire qu'il y a un pays extraordinaire en Europe. Nous, on est déjà pas mal. Hein. On a bien évolué en la matière, grâce entre autres à la Maison Arc-en-Ciel à Liège, ici à Liège, qui fait énormément hein, sur les questions de communautés différentes. Mais un pays qui a beaucoup compris qui était anciennement franquiste et qui a souffert, si on était homosexuel dans les années 70-80, on mourait, on assassinait, c'est l'Espagne. L'Espagne, elle a fait un immense bond en avant et elle a compris de cet état franquiste. Elle s'est soulevée, c'est une jeune démocratie et elle vient en juillet de l'année dernière proposer une loi qui est passée qui est pour la reconnaissance du non-genre. Et ça, pour moi, c'est un immense bond en avant parce qu'alors, il n'y a plus question d'être dans une communauté, en fait, et d'avoir plein de drapeaux. Mais si la reconnaissance du non-genre est là, peu importe ce que tu es, on peut accepter tel que tu es, et on vient d'un pays qui était très machiste. Donc moi, je tenais juste à dire que tout est possible et qu'on est quand même dans le bon en Belgique.
Oui,
hein, donc,
oui,
c'est et c'est très intéressant par rapport à la littérature. Il y en a des bons exemples, Georges Sand, Oscar Wilde, qui était bisexuel, on peut le dire.
Tout à fait.
Bon, voilà. Donc merci d'avoir fait ce moment...
Merci.
Jade, merci à
beaucoup.
Vous.
Moi, si je peux juste rebondir sur ce petit commentaire. Évidemment, en Belgique, il y a beaucoup de droits qui ont été gagnés, LGBTQIA+. Mais évidemment, il faut pas oublier, enfin, je crois que je ne serais pas là ici, sinon, mais il ne faut pas oublier que le droit et tout ce qui a été gagné par le passé, ben, ce n'est pas égal à la société, ce qui se passe réellement dans la société. L'homophobie, la transphobie, elle est toujours là. C'est une question de changement des mentalités, des stéréotypes et de ce qui se passe réellement dans le milieu social. Et à ce niveau-là, malheureusement, je me fais l'avocat du diable, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail.
Oui, je pense qu'on peut considérer qu'il y a... il y a toujours un pas en avant à faire. On embrasse très fort l'Espagne, du coup, qui avance bien. Monsieur Baumann, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, nous parler d'un projet que vous avez par rapport peut-être à la Maison Arc-en-Ciel ou...
Oui, écoutez, déjà, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Justement, ce samedi à la Maison Arc-en-Ciel, si vous êtes intéressé, il y a je vous invite à rejoindre notre page Facebook et les autres réseaux sociaux. Mais il y a un film qui va être diffusé en plein air s'il fait beau, si la météo nous le permet. Et il y a aussi, petite information, le 24 août, n'oubliez pas qu'il y a la Pride mouvante à Liège, justement, toute la journée avec le village associatif ainsi que la marche des fiertés.
Et ben voilà, n'oubliez pas donc le 24 août la Pride à Liège. Après cette fine analyse, on va profiter d'un petit morceau pour nous détendre. Tout de suite, Old Downtown par Canclaude.
I know they said never look back, but we keep driving to where it's at. Whatever way we go, we gotta dig our way out of the snow.
Vous êtes sur 48FM en direct de l'émission Le Van des Générations, une émission où on analyse des épisodes marquants de la culture et leur vision au cours du temps. Pour continuer sur notre lancée, nous avons Tanguy.
Tanguy, tu nous as préparé une chronique qui porte sur le cinéma de guerre, je crois.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du cinéma de guerre, en particulier à travers le prisme du chef-d'œuvre littéraire et cinématographique à l'ouest, Rien de Nouveau. Le roman de Erich Maria Remarque, publié en 1928 en Allemagne et en 1929 à l'international, a connu un succès phénoménal. Ce récit poignant a été porté à l'écran pour la première fois dans les années 30, donnant naissance à un film qui est rapidement devenu un remake en couleur a suivi en 1979 et plus récemment en 2022 sur Netflix. Alors, l'histoire nous raconte d'un jeune étudiant de 19 ans qui se nomme Paul Baumer. Lui et ses camarades s'engagent volontairement dans l'armée impériale allemande qui, à cette époque, étaient animés par un fort sentiment de patriotisme et de nationalisme. Leur enthousiasme est rapidement mis à l'épreuve par la dure réalité de la guerre. Une fois au front, la brutalité de la guerre devient inéluctable. Les soldats doivent affronter les rats porteurs de maladies, la boue incessante, les bombardements et les attaques au gaz moutarde, donc chimique. Paul voit son ami Kemmerich mourir de ses blessures, impuissant de le sauver. La camaraderie se manifeste dans les moments les plus sombres, comme lorsque Paul et son chef de section Stanislas Kaczynski parviennent à trouver une noix et à le faire rôtir, partageant ainsi le reste à leur compagnie. Alors, à mesure que la guerre progresse, Paul commence à remettre en question l'absurdité de cette violence sans fin, alors que de plus en plus de ses amis ne reviennent pas.
Et tu aurais un film plus contemporain qui reprend les mêmes bases, Tanguy ?
Oui, pour une perspective différente mais tout aussi poignante, nous considérons Platoon, un film américano-britannique réalisé par Oliver Stone en 1986 qui dépeint la guerre du Vietnam. L'action se déroule en 1967 où un dénommé Chris Taylor, un jeune Américain, s'engage dans l'armée pour servir son pays. Il découvre rapidement l'horreur de la guerre à travers des patrouilles épuisantes et aux embuscades des Viet Minh ou Viet Cong, c'est comme vous voulez, dont une le blesse légèrement. Bien qu'à l'Ouest, Rien de Nouveau et Platoon se déroulent dans des contextes de guerre différents, ils partagent un point commun, une représentation poignante et réaliste de la guerre. Ces récits nous rappellent bien que nous puissions rater des aspects de notre vie, la confrontation avec la mort est inévitable. Alors vivons pleinement, peu importe les circonstances.
Merci Tanguy, voilà des films que je ne manquerai pas de regarder. Alors maintenant, on pourrait peut-être passer à quelque chose de plus musical. Pour remédier à cela, Laurence nous a concocté une chronique sur la façon dont on aborde nos artistes à travers le temps. Laurence, la parole est à toi.
Merci Jade. Été 69. Des centaines de milliers de morts et le pays du Nem écoule leur sang. L'Amérique et le Vietnam sont occupés à fabriquer ce qui sera la plus longue histoire de la guerre. Une catastrophe sociale, économique, environnementale. Une hécatombe sans nom. Le bruit des morts résonne. Le chaos est passé maître de l'histoire. En parallèle, la société américaine est affaiblie et déchirée. Les années de conflits armés accablent ce pays déjà fissuré et fragilisé par les assassinats de Martin Luther King et Robert Kennedy. Le mois d'août 69 se prépare, sans le savoir, à créer le plus grand rassemblement musical de l'histoire. Les quelques 50 000 personnes attendues se transforment en 2 millions de personnes, soit 10 fois plus que la population des Ardentes et encore plus que Tomorrowland. Sex, drugs and rock'n'roll font la part belle au bruit des bombes. Le monde hippie débride les mœurs. Dans cette prairie si paisible de Bethel s'amassent des festivaliers venus de tout le pays et comme une traînée de poudre, celle-ci est envahie par une Amérique qui a soif de légèreté et de liberté. Tel un torrent, les autoroutes sont conquises par des kilomètres de bouchons. Les organisateurs sont dépassés par l'ampleur du mouvement. 3 OSC pour des milliers de personnes. Le festival manque très vite de nourriture. L'armée livre des repas par hélicoptère. Le prix des hot dogs passe du simple au triple. Woodstock ouvre les hostilités au business musical. De la pluie, de la boue, des glissades. Un vrai temps à la belge qui ne décourage personne. 2024. 55 ans plus tard, la dystopie n'est pas celle préconisée. Orwell a écrit 1984, mais nous ne volons toujours pas dans des voitures. Les codes musicaux ont bien changé et les lobbies l'ont bien compris. L'usine à disques prend une tournure différente. Et vous, Woodstock ou TikTok ?
Woodstock ou TikTok, ou différemment, est-ce que vous préférez les festivals ou les plateformes TikTok, par exemple, ou Instagram pour découvrir des artistes?
Alors, moi, c'est le vrai, la vraie vie, la vraie réalité, donc c'est les festivals, ça c'est sûr.
Okay. Et vous avez quel âge?
58.
Ok, merci. Et vous?
Alors, moi, j'ai 17 ans et je serai plus pour les festivals. Par contre, on les découvre souvent par TikTok. Donc, on découvre par TikTok les festivals qu'on va aller voir en vrai.
Plutôt par les réseaux sociaux. Ouais. Oui, je pense qu'on a beaucoup plus d'artistes maintenant qui émergent sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'en festival, bah, par exemple, il y avait les Arts Nantes il y a quelques jours. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont découvert quand même de nouveaux artistes là. Mais c'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux lancent plus vite une carrière qu'un festival, je pense.
Donc vous, vous rencontrez plus les artistes sur les réseaux sociaux qu'en festival. Et ça vous donne alors envie d'aller en festival?
Oui, s'il y a un artiste que je connais à un festival et que je l'apprécie, bah, j'irai en festival pour le voir.
Woodstock.
TikTok.
Ah, monsieur dit?
TikTok.
Donc, si vous deviez rencontrer des artistes, ce serait plus par TikTok qu'un festival, par exemple?
Oui, moi oui, parce que je suis vieux.
D'accord, vous avez quel âge?
65.
39.
J'ai aucune idée de ce que c'est, le Woodstock.
Ok. Est-ce que vous préférez découvrir des artistes en festival ou sur des plateformes TikTok, Instagram?
À mon avis, ce sera plus ça, oui. Sur des plateformes, c'est plutôt ça que je préfère, je crois.
Plus, oui, sur les réseaux et les plateformes quelconques, parce que c'est plus facile de retrouver, je trouve, qu'à des festivals.
Alors que la période des festivals bat son plein chez nous, un artiste peut-il encore se démarquer sans les réseaux sociaux, sans les programmes télé comme The Voice ou la Starac? TikTok, Instagram, Facebook sont des fenêtres ouvertes au monde. Les musiques sont virales. Rien qu'en scrollant, on peut entendre avec redondance la même chanson, instaurer sinueusement le verre musical, le bourrage de crâne. La popularité musicale est basée sur le nombre d'écoutes, de diffusions. Les réels sont un véritable thermomètre. La période Covid a fait pousser des ailes à certains pendant que d'autres s'enregistrent dans leur garage ou leur baignoire. La musique est devenue le terrain de jeu de jeunes artistes assoiffés, d'une notoriété bien souvent éphémère. L'autotune frénésie pousse au miracle. La promotion d'un artiste se quantifie en nombre de vues, aux chiffres. Le marketing doit suivre les tendances. L'industrie musicale revoit ses codes. Les vinyles remasterisés, les CD revisités, les goodies en tout genre. À quand le vibromasseur connecté à Spotify? Les labels indépendants fleurissent et font le gros dos aux machines de la Star System. Le goût du risque se fait timide. On sort un album comme on retire doucement ses gants quand il fait trop froid. C'est à tâtons que se joue une carrière. Des apparitions soudaines de créateurs de contenu, du matraquage audiophonique au matraquage visuel. Et puis on voit si la sauce prend. Mais alors, les festivals sont-ils toujours un lieu de découverte ou la construction géantissime d'une machine à fric? Pour nous aider à y voir un peu plus clair et trier nos infos, qui mieux que Bérénice Gillot pour nous parler avec ferveur et passion de ce dispositif financier où strass et paillettes se côtoient, serrés sur les starting blocks? Bienvenue Bérénice.
Re-bienvenue Laurence.
17 ans déjà sur Radio Prima, donc on imagine qu'il y a de l'expérience derrière.
Apparemment.
Voilà. Alors Bérénice, vous qui jonglez depuis si longtemps sur les ondes, quel changement avez-vous pu observer pour la promotion d'un artiste?
Il est vrai, lorsque je reçois des artistes à mon émission, parce que j'invite, je fais de la promotion d'artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le secteur de la musique, interview avec live. Il est vrai que je les découvre sur Instagram, où, moi j'ai pas TikTok, mais sur Instagram en tout cas, et je vais aussi sur Facebook, et effectivement par rapport à ma page de la radio, j'ai même des conseils, des suggestions. On voit apparaître des suggestions de groupes, etc. Donc moi, je prends la peine de les écouter. Effectivement, je les découvre sur le net, je les contacte et je les fais venir à mon émission. Parce que je trouve qu'après avoir fait cette démarche virtuelle, c'est toujours aussi fondamental de faire des lives. Ça, c'est clair. Donc j'entends qu'effectivement, l'Internet peut être une manière de sillonner des artistes, de les rencontrer virtuellement et de dire « Tiens, c'est pas mal, je vais écouter même sur Spotify et ça me donne envie d'aller me rendre à un festival. » Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, effectivement, il y a eu cette libéralisation, j'arriverai du net, et il y a eu, comme je vous l'avais déjà dit en off, des artistes à l'époque, dans les années 80, même 90 plutôt, qui ont été des grands précurseurs comme Prince, qui a permis qu'on ait eu marre des gros labels qui prenait toute une partie de son argent, et il a libéralisé ses morceaux sur le net. Madonna fait pareil, Tom Work de Radiohead a fait pareil. Donc c'est aussi une manière de se dire, bah oui, il y a des gens qui nous écoutent, bah ils vont sur le net, ils n'ont qu'à télécharger gratuitement nos morceaux. Et eux, ce qu'ils font à leurs concerts, ils font du merchandising. Donc le business, il est là, on achète donc des t-shirts, etc. C'est très très important ça, dans un concert, ce qui n'est pas la même chose qu'un festival. Un festival, un groupe vient dans un festival, il joue 50 minutes, bah basta, au revoir, il a son cachet. Mais le groupe qui va faire un concert, il doit ramener de l'argent pour le groupe, donc il vend du merchandising, il vend des t-shirts, etc. C'est vrai que ça fonctionne comme ça. Donc je trouve qu'il y a du bon dans le net, dans aussi la possibilité à des jeunes de se dire, bah, on ne me connaît pas, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et maintenant, il y a de plus en plus de groupes, avant de se lancer ou de faire un mini-EP, ils vont sortir un single par mois. Donc si le single marche, eh ben, ils vont sortir un deuxième, troisième, et là, ils ont une matière assez nécessaire pour faire un mini-EP de 9 morceaux. Et alors là, ils peuvent commencer à promouvoir, en fait. Ça se passe comme ça. Maintenant, l'autotune, ça commence à diminuer, en fait. Il y a toujours des artistes dans le milieu de la trappe, du rap, mais ça commence à diminuer parce que je reçois pas mal de rappeurs, de hip-hop, on revient au texte. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Donc, on n'oublie pas non plus la base. L'old school, il est toujours là. Donc, c'est intéressant, il y a du bon. Dans Internet, maintenant, ça dépend comment on l'utilise. Et je trouve qu'il y a des jeunes, et on en a un liégeois, qui est vraiment là-dessus top, c'est Fresh La Peufra, dans le milieu du rap. C'était Iceberg Click avant, il vient de Droit Expressou. Maintenant, il est passé à l'émission sur Skyrock, etc. C'est bingo. Il fait plein de concerts. Et dans les grands rappeurs, c'est des Belges, hein, Damso, Frénétique, Hamza, qui se retrouvent en France. Ils ont utilisé tout ça. Ils en ont fait quelque chose. Et maintenant, eux lancent aussi des jeunes et créent leur propre label. Donc, je trouve que tout ça est plutôt positif. Mais ça va avec le temps. Hein.
D'accord. Donc, selon toi, les influences TikTok, Instagram, Spotify, Deezer, etc., c'est quelque chose qui fonctionne.
Oui, mais TikTok, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je crois que ça, c'est bien quand on est jeune, fun, machin. Mais non, c'est pas du méga pro, quoi. C'est pas du pro, du professionnel. Mais il faut pas oublier aussi un endroit qui est vraiment bien pour les artistes belges. Et moins coûteux pour eux, c'est Bandcamp. Et ça, il faut mettre en avant parce que c'est plus facile financièrement aussi. Mais oui, on doit faire partie de tout ça, évidemment, oui.
D'accord, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais pour clôturer cette mise en bouche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'héritage musical et intergénérationnel ?
Ouh là, ça c'est une grosse question. Ça.
C'est parce qu'en off, nous en avons légèrement discuté.
Oui.
Et donc effectivement, nous, moi en tant que maman, je fais écouter peut-être Dépêche Mode, etc.
Qu'est-ce qui fait que ça perdure, par exemple ? Exactement. J'avais donné l'exemple d'Indochine.
Exactement, oui.
Bah oui, Indochine, bah oui, il y a plein de jeunes qui connaissent Indochine. Parce que, oui, là, c'est l'éducation des parents qui écoutaient Indochine. Il y a des gens de mon âge, hein, le monsieur tout à l'heure, 50 ans, 55 ans, qui sont un peu encore nostalgiques de cette époque, disons, un peu New Wave, etc. Dépêche Mode faisait partie de ces groupes. Et ils vont faire écouter ça à leurs enfants, quoi. Et le gosse dit, ouais, c'est quand même pas mal, Indochine, ça parle de tel truc, moi, ça me parle. J'ai demandé à la Lune, qu'est-ce qu'il connaît pas ce morceau-là, quoi. Il y a plein de gens qui connaissent ce morceau-là, de toutes les générations. Puis il y a des générations, les anciennes, qui amenaient leurs gosses à aller voir ces groupes-là. Un groupe, pour moi, qui passe tous les... qui est intemporel, c'est Dépêche Mode. Pourtant, Dépêche Mode, ils ont vraiment leur ligne de conduite. Ils ne sont pas spécialement sur TikTok, ils sont sur Insta, pas spécialement sur TikTok, mais ils jouent le jeu. Mais c'est indétrônable, Dépêche Mode. Par contre, il y a des artistes plus militants, comme Massive Attack, ou alors, je parlais de Pink Floyd. Non, eux, ce n'est pas leur truc, mais c'est Pink Floyd. Pink Floyd, ils n'ont pas besoin de montrer que ça marche, mais ils sont très militants. La cause palestine, etc. Donc, ils ne vont pas spécialement aller sur Insta pour commencer à passer leurs morceaux quoi, ou leur diffuser.
Leur réputation, de toute façon, est là.
Elle est là.
Elle les précède. Elle est... Donc, on n'a pas besoin.
Non.
Ils n'en ont pas besoin.
Non.
Bien, merci, Bérénice. Et donc, moi, pour achever cette chronique, si je devais répondre Woodstock contre ou pour TikTok, eh ben, je dirais les deux, bien entendu, parce que un peu comme vous, j'ai des suggestions régulièrement. Je passe mon temps à scroller aussi. J'écoute, je découvre. Mes fils d'actualité sont remplis de musique avec beaucoup de bonnes intentions. Et les plateformes me permettent d'enrichir au quotidien une culture musicale. Je reste assoiffée de sensations sans cesse en mouvement. Merci à vous.
Merci Laurence pour cette chronique qui donne envie de profiter à fond de nos festivals.
Pour rester dans cette ambiance, Dancing Queen par ABBA.
C'était Dancing Queen par ABBA. Vous êtes sur 48FM en direct du Van des Générations. Vous nous écoutez peut-être depuis votre radio, votre portable, notre site internet. Et pour mieux comprendre ces différents médias, Amel nous a préparé une chronique là-dessus.
Et oui Tanguy, je vous en ai préparé une. Je vais vous parler de l'influence des médias. Depuis des générations, les médias influencent les gens. Que ce soit niveau mode de vie, vêtements ou même politique. Cette influence change en fonction des âges. On peut voir une grande différence entre l'ancienne génération et la nouvelle. Les jeunes d'aujourd'hui utilisent de plus en plus les réseaux sociaux. Les influenceurs et même les politiciens l'ont bien compris. Ils utilisent les réseaux sociaux comme une attrape jeune. Les influenceurs vont faire de la pub pour un produit et vont influencer leurs abonnés pour l'acheter. Mais ils ne vont pas faire que cela. Depuis quelques mois, certains influenceurs parlent de politique et donnent leur avis sur ce sujet. Les politiciens font leur arrivée sur Internet pour avoir un public jeune. Ils diffusent leurs idées, mais aussi font des trends TikTok, par exemple, pour faire rire les adolescents et les inciter à voter pour eux. Comme l'ancienne génération consommait d'autres médias, leurs sources d'influence étaient différentes. Par exemple, la télévision et les journaux avaient beaucoup plus de place dans leur vie, dans la vie des gens au début du XXe siècle. En Belgique, les Belges qui suivent des influenceurs créateurs de contenu ont déjà acheté un produit car ce dernier leur a recommandé. Si les influenceurs ont un impact commercial, ils suscitent aussi un meilleur mode de vie, en les enjoignant à adopter un comportement plus sain. Certains commencent à faire du sport, d'autres commencent à manger plus sainement après avoir reçu des conseils sur les réseaux sociaux de leurs influenceurs préférés. Instagram, YouTube, Snapchat, mais surtout TikTok, sont dans la liste des réseaux sociaux préférés des adolescents. Ce sont les plus jeunes qui sont touchés, ceux entre 16 et 25 ans le plus souvent. La politique joue un grand rôle sur les réseaux sociaux depuis un certain moment. Certains ont peut-être vu les TikTok sur M. Bardella et M. Attal. Si des gens ne les ont pas vus, je vais vous faire un petit résumé. Dans ces TikTok, on les voit en train de se faire les yeux doux, de se sourire et de rougir parfois. Peut-être que ces mini-vidéos sont juste drôles ou ridicules pour vous, mais chez les jeunes, ça fait un gros effet. De plus, ces politiciens ont fait des vidéos qui réagissent au TikTok sur eux, ce qui amuse énormément les adolescents. Les politiciens savent comment faire pour attirer les jeunes. Mais certains influenceurs se sont mis aussi à la politique. Ils diffusent leurs idées, s'opposent à des partis politiques. Et surtout, ils influencent leurs abonnés à faire le bon choix, comme ils disent. Certains ont même perdu des followers et d'autres se sont fait menacer. La question qui se pose est, si les jeunes suivent ce que leur influenceur leur dit, est-ce que leur vote est toujours libre? C'est ce que je vous pose, mes chers collègues.
Pour moi, c'est intolérable.
D'accord, merci Tanguy.
Je trouve que, sincèrement, à partir du moment où il y a de l'influence derrière, sincèrement, le vote n'est plus crédible à mes yeux, mais bon, c'est mon point de vue.
Eh bien, écoute, So, j'ai le même avis que toi. Mais alors, la génération d'avant, comment était-elle influencée? Eh bien, écoutez, à l'époque, il n'y avait pas encore toute cette technologie. Ils n'avaient même pas accès aux influenceurs comme d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils n'existaient pas encore. Avant, ils étaient influencés par la télévision et les journaux. Ce qui était nouveau, c'était les pubs à la télé. Elles influencent les téléspectateurs à faire des achats. À notre époque, on constate que la génération d'avant est toujours influencée par la télévision et les journaux, mais aussi par un réseau social qui n'est d'autre que Facebook. Ce réseau social est plus utilisé par les personnes de 25 à 65 ans. Je suis allée dans les rues de Liège et j'ai interrogé des personnes de générations différentes pour savoir quels médias ils utilisent les influencent le plus. Leurs réponses ont été assez diverses.
Parmi les médias que vous consommez, est-ce qu'il y en a un qui vous influence plus que d'autres?
Surtout les journaux, de temps en temps la télé.
Pas du tout. Allô.
Ben, c'est plus TikTok, moi. Enfin, par exemple, j'ai pas eu le droit de voter vu que j'ai pas encore 16 ans, mais ça influence quand même pas mal de gens sur TikTok, parmi les choix qu'ils proposent et tout.
Ben moi, c'est plus Instagram et TikTok, mais c'est pas du tout au niveau politique, c'est plus au niveau vestimentaire et tout ça. Et aussi les goûts musicaux aussi.
En général, pas vraiment, parce que j'essaie quand même d'être un peu réfléchie, en général, de donner mon propre avis aussi. Donc, c'est 50-50, on va dire.
C'est une bonne question. Oui, je dirais que oui. Je suis fort influencée par Instagram et assez par Facebook aussi.
Voilà. Depuis la période Covid, j'ai commencé à suivre quelqu'un qui s'appelle Momo, qui se trouve en France. C'est un média alternatif. Donc je suis souvent sur des médias comme ça. Je suis avec tout un groupe qui se dit un groupe d'éclairés, donc des gens qui voient un petit peu plus loin que leur bout de leur nez. Voilà, on a créé une sorte de réseau ensemble et on s'envoie des informations qui sont atypiques ou qu'on trouve vraiment intéressantes.
Franchement, moi, personnellement, je n'utilise pas trop de médias. Genre, j'ai Facebook, mais je n'utilise pas WhatsApp ou bien Instagram ou bien... je vais sur YouTube parfois un peu quand même. Quand même, j'écoute beaucoup de musique. Et franchement, je pense que ça impacte beaucoup les gens, en fait. La musique, les médias et tout ça. Ça a beaucoup d'impact sur les jeunes et tout ça. Et voilà.
Non, parce que j'arrive à faire la distinction entre les réseaux et la vie réelle. J'arrive à prendre la distance entre ce qui se passe. Donc la mise information, c'est ça en anglais, ça. Donc la fausse information et la vraie information. Comme je travaille dans le domaine donc de presque de ça, en fait, j'arrive à voir parfois les choses qui ont été erronées ou pas. Donc voilà.
En conclusion, on peut voir qu'on a toujours été influencé, que ce soit à la télévision, en lisant un journal ou sur les réseaux sociaux. Mais on remarque que l'influence commence à prendre beaucoup de place dans notre société. On fait des choix qui ne sont même pas les nôtres de base. Et ça parce qu'une personne nous a dit que son choix est le bon. Il faut quand même voir le positif. Certaines personnes ont encore les idées en place. Mais au fond, est-ce qu'on n'aime pas se faire influencer si on n'aimait pas ça? On ne se laisserait pas faire, non?
Merci Amel pour cette chronique fort intéressante sur nos habitudes de consommation. Pour compléter ton analyse, So nous a préparé une chronique sur l'utilisation des nouvelles technologies. So, c'est à toi.
Merci à toi, Jade. Et moi, je vais vous parler au fait de la fracture numérique. Est-elle importante dans notre société? Éprouvons-nous des difficultés à utiliser les nouvelles technologies? Quelles sont les conséquences importantes sur notre société et comment réduire les inégalités? Ce sont les questions que je me suis posées en écrivant cette chronique.
Mais avant d'aller plus loin, So, est-ce que tu pourrais d'abord m'expliquer ce que c'est que la fracture numérique?
Oui, de manière générale, la fracture numérique est le fossé entre ceux qui ont accès à Internet et ceux qui n'ont pas accès. Comme l'a écrit Michel Kindé, la fracture numérique n'est pas binaire. Les disparités en matière d'accès à Internet sont dues à plusieurs facteurs.
Et quels sont ces facteurs?
Tout d'abord, nous avons le facteur disponibilité. Existe-t-il un accès à Internet dans votre région? Existe-t-il un point de connexion à Internet à proximité? Si oui, ceci n'est que la première étape. L'accessibilité financière est le deuxième facteur. Cet accès est-il abordable? Quel pourcentage de votre revenu devez-vous consacrer à ce service? Le troisième facteur, c'est la qualité du service. Les vitesses de téléchargement en amont et en aval sont-elles suffisantes pour les besoins locaux des utilisateurs d'Internet? Et comme quatrième facteur, la pertinence. La communauté connectée dispose-t-elle des compétences et des technologies nécessaires? La communauté comprend-elle et s'intéresse-t-elle à la pertinence de l'accès à Internet?
Et existe-t-il d'autres facteurs d'inégalité?
Oui, évidemment. D'autres facteurs de fracture susceptibles de créer des inégalités numériques, on peut citer la sécurité, l'interconnectivité, la culture numérique et l'accès aux équipements. Sans aucun doute, nous venons de le constater, la fracture numérique est une réalité et plusieurs facteurs entrent en jeu. Avant d'aborder les conséquences de cette fracture numérique et comment la réduire, penchons-nous sur les difficultés que nous éprouvons à utiliser les nouvelles technologies. Et pour répondre à cette question, je suis parti micro à la main d'Aléry de Liège et je vous ai posé cette question. Je voudrais savoir, éprouvez-vous des difficultés à utiliser les nouvelles technologies?
Non, moi non, mais je sais que des personnes âgées comme ma mère par exemple ont beaucoup de mal, donc je trouve que la fracture entre notre génération et la leur est importante et du coup on passe souvent sur des choses électroniques, enfin Internet, etc. Mais eux ne savent pas le faire, donc on va avoir des difficultés pour le futur, je pense.
Ça dépend jusqu'à quel niveau, mais normalement non. Si c'est assez simple, je m'en sors.
Ben moi, je dois parfois demander de l'aide à des plus jeunes. Voilà. Je m'y intéresse aussi, je trouve que c'est une bonne chose, que ça sert beaucoup. Mais voilà, j'ai parfois besoin de l'aide des plus jeunes. Mais voilà.
Non, pas pour l'instant, parce qu'à notre âge, on a l'habitude. Et on est plongé dedans, du coup on n'a pas trop de difficultés. Par contre, pour les autres, peut-être qu'eux, ils en ont.
Donc, comme je le disais, je dirais que vu mon âge, j'ai 29 ans, j'ai peut-être plus facile que ma maman qui en a 59. Mais je suis quand même pas très très à l'aise quand je dois les utiliser. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être le même âge que moi ou qui ont grandi différemment, qui ont peut-être plus facile à les utiliser. C'est pas mon cas.
Oui, ben, comme elle dirait ma fille, moi j'éprouve beaucoup de difficultés. D'ailleurs, je dois toujours me référer à ma fille quand je dois faire quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est pas évident. Je pense qu'à un certain âge, c'est pas de notre époque, en fait. On s'y fait pas facilement.
Les réseaux sociaux, l'ordinateur, les réseaux sociaux sur le GSM, tout ce qu'on... Oui, si.
Non, pas vraiment. Je maîtrise un peu le sujet, donc ça va. Je me débrouille. Je dirais pas que je suis une experte. Mais ça va.
Ah non, j'ai pas de problème parce que mon mari est un informaticus.
Vous l'avez vu, nous ne sommes pas tous égaux face à l'utilisation des nouvelles technologies. Selon le baromètre de l'inclusion numérique réalisé à l'initiative de la Fondation Roi Baudouin, en 2023, l'accès à Internet et aux outils numériques a continué de progresser, tout comme l'utilisation des services en ligne. Et toutefois, à continuer de progresser, donc 40% des Belges restent en situation de vulnérabilité numérique en raison des faibles compétences numériques ou de non-utilisation d'Internet. L'accélération de la numérisation de notre société n'entraîne donc pas une augmentation proportionnelle des compétences numériques. Au sein de la population, les inégalités numériques restent significatives. Et de nombreuses personnes, en particulier celles déjà vulnérables sur le plan social, économique et culturel peinent encore à tirer pleinement parti de la numérisation croissante de notre société, ce qui est susceptible d'entraver l'accès aux droits sociaux, santé, éducation, emploi et logement. En France, cette même inégalité est plus importante. Selon le baromètre 2022, 48% des Français rencontrent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et Internet, soit une hausse de 13 points par rapport à l'année 2020. Ces difficultés peuvent varier, mais voici quelques exemples courants. Perte de documents, il arrive que l'on perde des fichiers numériques, ce qui peut être frustrant et stressant. Manque de compétences numériques, près de 38% des usagers en France manquent d'au moins une compétence numérique de base et 2% sont dépourvus de toute compétence.
Esso, je crois que tu t'es aussi intéressé aux conséquences de la fracture numérique.
Et oui Jade, la fracture numérique a des conséquences importantes sur la société. Et déjà, elle facilite l'exclusion sociale et professionnelle. Les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne maîtrisent pas les outils numériques sont désavantagées sur le marché du travail. Elles ont moins de chances de trouver un emploi, de se former ou de bénéficier de services en ligne. Elles contribuent aux inégalités d'accès à l'information. L'accès limité à Internet restreint la possibilité d'obtenir des informations, de suivre l'actualité, d'accéder à des ressources éducatives et de participer à la vie citoyenne. Et il y a aussi des difficultés dans les démarches administratives. De plus en plus de services publics sont dématérialisés aujourd'hui. Les personnes exclues numériquement ont du mal à effectuer des démarches en ligne, comme déclarer leurs impôts, renouveler leur carte d'identité, etc.
Et y a-t-il un moyen de réduire ces inégalités, So?
Oui, il y a plusieurs possibilités, surtout en investissant dans l'extension des infrastructures de télécommunications, comme la fibre optique, pour couvrir les zones rurales et les quartiers défavorisés, en proposant aussi des tarifs d'accès à Internet abordables pour tous, en particulier pour les ménages à faible revenu, en mettant en place aussi des programmes de formation aux compétences numériques pour les personnes exclues numériquement, sensibiliser sur l'importance de l'accès à Internet et des outils numériques, distribuer des ordinateurs par exemple, des tablettes ou smartphones à ceux qui en ont besoin. Les bibliothèques, les écoles et les centres communautaires peuvent jouer un rôle aussi dans ce domaine. En combinant ces efforts, nous pouvons progressivement réduire la fracture numérique et garantir un accès équitable à l'information et aux opportunités offertes par le monde numérique. La fracture numérique est un enjeu majeur de notre société et de notre époque. Elle se manifeste par l'inégalité d'accès à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Certaines personnes, souvent les plus vulnérables, sont exclues de ce monde digital en raison de divers obstacles que nous avons évoqués. En somme, en réalité, la fracture numérique est un défi sociétal qui nécessite une action collective pour garantir que personne ne soit laissé pour compte dans cette ère numérique en constante évolution.
Merci beaucoup, So, pour cette chronique très contemporaine. Pour rester dans le thème, prenons le temps de profiter de Wake Up, un morceau de Imagine Dragons.
Between us, big man gonna break to pieces. Spinning and can't believe it. Spinning. Turn around, turn it up. Talk a bit, zip it up. Lock you in and close it up. Yup. Flip it upside down, I'm wheeling. Dealing in. Every single one of you is coming to my mind. Bring them all together, can you stack them in a line? Jealousy is gonna be your failure, not mine. Winning. Turn around, turn it up. Talk a bit, zip it up. Lock you in and close it up. Give an inch and I'm bound to seize it. Take a chainsaw out and feed it. Come alive when you don't believe it. Write me off and I'd love to read it. Spit your words and I'll watch you eat it. Digging in.
Et c'est sur cette belle chanson que nous terminons doucement notre émission. À travers les passions de chacun d'entre nous, nous espérons vous avoir divertis et intéressés. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.
Toute l'équipe du Van des Générations vous remercie d'avoir été avec nous pendant cette heure. Merci aussi aux invités qui ont répondu présents à l'appel, aux Liégeois pour leur participation lors des micro-trottoirs et 48FM pour cette opportunité. Merci évidemment à Lucas, notre mentor lors de cet exercice, qui aura répondu patiemment à toutes nos interrogations. Ce projet a été soutenu par le CESEM et la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était le Van des Générations. Nous vous souhaitons une belle journée.
Belle journée à vous.
Merci. Au revoir. Au revoir.